Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi, sur France Culture. À l'ordre du jour ce soir, retraite, la réforme donne-t-elle du sens au travail ? Avec notre partenaire Lacroix et Béatrice Bougnol du service France de ce journal, nous allons ce soir nous demander ce que le débat et les manifestations autour de la réforme des retraites nous disent des relations que nous établissons entre notre temps de travail et notre temps futur de retraite. Nous en parlons ce soir avec Arnaud Mias, il est professeur de sociologie à l'université Paris-Dauphine, spécialiste du travail, avec Isabelle Labattu, elle est secrétaire nationale CGT du ministère du Travail, qui syndique principalement des inspecteurs du travail, avec Jacques Maire. Il est député LREM de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine et il a été DRH dans le privé. Et vous êtes, Jacques Maire, un des 7 rapporteurs des projets de loi autour de cette question de la réforme des retraites. Et je voudrais commencer tout simplement avec vous en vous posant une simple question. Est-ce que une bonne retraite, selon vous, est une forme de reconnaissance du travail accompli, Jacques Maire ?
La retraite, effectivement, pendant très très longtemps, a été simplement une fin de vie très brève. Maintenant, c'est plutôt une deuxième vie, la retraite, vu l'espérance de vie qui s'allonge de façon forte. Et donc, il faut lui donner un sens. Et le sens, c'est pas uniquement la récompense du travail fait. Le sens, c'est une capacité à vivre et à bien vivre une deuxième partie de vie qui, maintenant, est presque aussi longue que la durée de vie au travail.
Valérie Labattu, est-ce que cette question vous intéresse ? Est-ce que vous pensez justement qu'une bonne retraite, c'est ce qui nous permet de reconnaître que nous avons fait un travail qui nous a satisfait, qui est un travail accompli pour la société, mais pour nous-mêmes aussi.
Je pense que pour certaines personnes, notamment pour celles qui ont un travail pénible, la retraite, c'est aussi une juste récompense des efforts accomplis. Et parfois, même, elle est pensée en termes de compensation. On a parlé des régimes spéciaux, les 42 régimes spéciaux, sans vouloir approfondir plus avant cette question. Je pense que pour certaines personnes qui ont estimé avoir eu des conditions de travail pénibles et avoir accepté dans ce cadre un certain nombre, par exemple des horaires atypiques, c'est-à-dire des personnes qui estiment avoir fait certaines concessions dans leur travail, la retraite apparaît comme une juste compensation. Mais il ne faut pas que le pacte de départ soit trahi en route, en quelque sorte. Il ne faut pas que les conditions de départ soient modifiées en route, parce qu'alors il y a rupture du pacte social.
Arnaud Mias, vous êtes professeur de sociologie, je l'ai dit, vous êtes spécialiste de cette question du travail, et en particulier des bouleversements actuels du travail.
Oui, je pense qu'effectivement, cette question, c'est un enjeu extrêmement important, et je vous félicite d'avoir soulevé cette question de l'articulation entre ces transformations de l'âge de la retraite, l'âge pivot, etc., mais du temps de la retraite, et de ce que cela peut vouloir dire de la transformation de notre rapport au travail, de la place du travail dans nos sociétés, et de la place du temps de la retraite, qui n'est pas un temps de non-travail, c'est un temps qui peut être consacré aussi à des activités utiles à la collectivité et qui, en ce sens-là, effectivement, ça soulève des questions importantes.
Béatrice Bougnol, vous êtes notre partenaire du journal La Croix, vous travaillez au service France, vous vous intéressez à ces questions et vous avez mis, d'une certaine façon, cette question donc du rapport travail-retraite au centre de notre débat aujourd'hui.
Oui, bonsoir. Et peut-être qu'on peut continuer et commencer, j'allais dire avec vous, Arnaud Mias, à aller dans le cœur du sujet, peut-être, parce que justement, on peut se demander dans un premier temps si l'évolution des conditions de travail aujourd'hui, et notamment la fragmentation du travail, enfin c'est un de vos sujets d'enquête, est-ce que l'évolution de ces conditions de travail, en fait, a un impact sur l'attente que les salariés aujourd'hui, et les travailleurs en général, peuvent avoir par rapport à leur retraite future ?
Oui, je pense que cette question de l'allongement de la durée de vie active vers laquelle on chemine, cette question soulève aussi la question du point de vue du travail, de sa soutenabilité, c'est-à-dire de la capacité aussi à tenir dans la durée une telle vie active. Cette question de la soutenabilité, c'est pas une question proprement physiologique. C'est pas poser la question de est-ce qu'on peut travailler tant d'années. C'est plutôt se poser la question aussi de ce que les organisations du travail proposent comme activité de travail, comme condition de travail, et donc du coup s'interroger sur l'ensemble de la vie active, tout au long de la vie. est-ce que le travail est-il soutenable, en particulier dans les dernières années de vie active? Cet allongement de la durée de vie active, il n'est pas un phénomène récent, c'est pas quelque chose qui est devant nous, c'est déjà entamé, c'est un mouvement qui est déjà entamé depuis pas mal d'années, et on voit que les évolutions sont encore un peu compliquées de ce point de vue-là. C'est-à-dire que la capacité à tenir au-delà de 60 ans, au-delà de 62 ans, jusqu'à 64 ans, voire plus, cette capacité, elle n'est pas aujourd'hui là pour tous, et ça soulève donc tout un ensemble de problèmes.
Vous avez, Jacques Maire, eu différentes fonctions dans votre carrière. Vous avez été dans le privé, vous avez été dans le public, vous avez travaillé dans des cabinets ministériels, vous avez également été DRH dans certaines entreprises. Et dans votre rôle de DRH, est-ce que vous avez vu, lorsque vous étiez dans ce rôle-là, cette question de la soutenabilité, comme vient de le dire Arnaud Mias, du travail, de la durée du travail, se présenter auprès des salariés qui étaient dans votre entreprise? Est-ce que vous avez vu aussi que cette question de l'incertitude grandissante, de savoir si on ne sait pas comment se construit votre propre travail dans le temps, comment aussi cette retraite va se dessiner pour vous, est-ce que ça a conduit, disons, à une sorte d'angoisse supplémentaire de ceux qui travaillaient, selon vous?
C'est un sujet qui est en fait assez clivant par rapport à l'âge où on le traite. C'est-à-dire, quand on rentre dans l'entreprise, en général, la question de la retraite n'existe pas. Alors, c'est vrai qu'il y a des entreprises, et là, je rejoins ce que disait Madame Labattu, c'est-à-dire que des entreprises dans lesquelles les métiers sont pas attractifs. Regardez aujourd'hui des métiers, par exemple les régimes spéciaux, on parlait tout à l'heure de, par exemple, le train ou ce genre de choses. C'est suffisamment peu attractif pour ne pas être attractif, même quand la retraite, globalement, est dérogatoire par rapport au droit public. Et aujourd'hui, effectivement, c'est vrai que les gens, globalement, veulent s'impliquer dans le monde du travail d'une manière qui fasse sens maintenant, qui fasse sens aujourd'hui, au moment où j'y suis ou au moment où j'y rentre. Et puis, chemin faisant, au fur et à mesure, et ça, moi, je l'ai bien vécu à plusieurs reprises, il y a une espèce de lassitude pour beaucoup, et on voit très bien, ça se traduit par beaucoup de choses, par exemple sur l'absentéisme, sur la motivation, sur l'engagement. Ceux qui subissent leur travail, finalement, voient la retraite comme étant une espèce d'objectif. Et ceux qui sont impliqués, évidemment, voient le travail comme pas uniquement une libération, mais une contribution positive. Et puis, il y a des moments de décrochage. Alors, par exemple, un moment de décrochage très important, c'est quand votre conjoint va en retraite. Alors là, effectivement, vous avez, vous avez 10 ans de moins que votre mari, ou l'inverse, votre épouse, et tout d'un coup, là, il y en a un qui est à la retraite, l'autre n'est pas. Et bien là, effectivement, on l'a constaté, une espèce de décrochage, de désinvestissement, parce que l'environnement familial et l'environnement quotidien
changent
complètement. Et puis, il y a effectivement ce qui était dit tout à l'heure, c'est-à-dire les vrais facteurs de pénibilité, l'épuisement au travail, et là, c'est pas uniquement de l'épuisement physique. Moi, je me rappelle, par exemple, l'entreprise où j'étais, il y avait encore beaucoup, beaucoup d'encaisseurs de chèques. Mmh. C'était leur métier, d'aller encaisser les chèques, des primes, de façon régulière. Quand vous faites ça pendant 30 ans, évidemment, ça commence à être un peu démotivant. Et puis, vous vous sentez dépassé par l'évolution technologique, etc.
Béatrice Bougnol.
Effectivement, il y a toutes ces questions que vous venez de soulever, Jacques Maire, mais justement, ça nous permet, je crois, d'aborder autre chose. Il y a pas mal d'enquêtes qui soulignent l'attachement des Français au travail et qui soulignent notamment que, par exemple, en Europe, les Français sont plus attachés globalement au travail que peuvent l'être les Britanniques, par exemple.
Et, comme
source d'épanouissement, finalement. Et cet attachement au travail, il a notamment deux formes, on va dire. C'est-à-dire qu'ils sont particulièrement attachés par la satisfaction du travail bien fait. Et puis aussi, il y a un attachement au travail collectif. On sait aujourd'hui que ces deux choses-là, la satisfaction du travail bien fait et la coopération dans les entreprises, ce sont justement ces deux choses qui souvent font défaut. Notamment, alors on en parlera sans doute, mais avec des formes de management dont on sait qu'elles ont mis à mal quand même en partie ces deux ressorts de l'attachement au travail, qui malgré tout demeurent donc. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, Valérie Labattu, c'est-à-dire est-ce que c'est ça aussi l'expérience du travail, c'est-à-dire non seulement la pénibilité comme vous l'avez rappelé pour certains travails, non seulement des moments où on peut être désinvesti d'une manière ou d'une autre, par la répétitivité par exemple d'une tâche, mais aussi le fait que finalement, on n'arrive plus à être satisfait de son travail parce qu'on est pris dans une organisation du travail qui ne le permet simplement plus.
Valérie Labattu.
Alors effectivement, loin s'en faut que tous les salariés se plaignent de leur travail. Il ne faut pas caricaturer les choses, même si j'aimerais dire après un mot quand même de la question de la pénibilité et de l'usure professionnelle au travail. Alors sur votre, par rapport à votre question, effectivement, je pense que les gens qui travaillent ont envie de pouvoir faire du bon travail, du travail collectif. Ils ont une éthique professionnelle. Et il est vrai que les réorganisations qui touchent hein, beaucoup d'entreprises du privé, qui somme toute se réorganisent en permanence, c'est-à-dire les salariés se retrouvent en permanence dans des environnements instables auxquels ils doivent s'adapter perpétuellement. C'est ce que la sociologue Danielle Linhart appelle la dictature du changement perpétuel et auquel les salariés échouent nécessairement à s'adapter. Si bien que ces personnes sont mises en situation d'échec. Quand je parle de changement, hein, je parle de choses très concrètes. Ça va être des fusions, des absorptions, des mutualisations, également l'introduction de nouveaux logiciels, de nouvelles technologies. Et c'est vrai que ça désarçonne, ça sidère même certains salariés que nous, les inspecteurs du travail, nous retrouvons dans nos permanences littéralement détruits, hein, il faut quand même dire ce qui est, et incapables de continuer à travailler. Là, bien évidemment, j'aborde en filigrane la problématique de la souffrance au travail et des risques psychosociaux qui ont connu une inflation importante ces 10 dernières années.
Arnaud Mia, sur cette question, justement.
Oui, il est très juste de souligner le fait que pour les Français, en particulier par rapport à tous les pays d'Europe du Nord, le travail occupe une place très importante dans leur vie. Ils sont voilà, plus nombreux à le dire que dans d'autres pays. Mais en même temps, ils sont aussi plus nombreux qu'ailleurs à dire qu'ils aimeraient que le travail occupe une place moindre. Que ça occupe une place moindre, ce qui soulève aussi des problématiques qui se posent aussi, qui ont été évoquées tout à l'heure, d'articulation ou de conciliation entre vie professionnelle, vie personnelle, qui peuvent se formuler effectivement comme ça a été énoncé tout à l'heure, c'est-à-dire le conjoint qui part à la retraite et comment du coup on fait face à cela, mais c'est aussi une charge familiale aussi plus importante quand on est à la retraite, si on a des petits-enfants, etc., une envie aussi d'aller vers d'autres activités, de pouvoir ménager cette articulation, ça me semble important. Peut-être autre chose sur la centralité du travail, c'est aussi de souligner quand même d'essayer d'avoir, mais ça a été dit aussi, c'est-à-dire d'essayer d'avoir un discours qui ne soit pas trop généralisant là-dessus. Qu'il y a une grande diversité dont il faut tenir compte et que cet attachement au travail, ce sens du travail plus affirmé plus affirmé dans certaines catégories socio-professionnelles du côté des jeunes et également du côté des femmes, c'est aussi quelque chose qui est plus souvent exprimé de ce côté-là.
Jacques Maire, en tant que député, est-ce que en préparant justement ces lois, puisque je rappelle que vous êtes un des 7 rapporteurs de ces projets de loi sur les retraites,
notamment sur la pénibilité.
Et sur la pénibilité, on y reviendra tout à l'heure avec Valérie Labattu, mais est-ce que, en préparant cette question, vous avez réfléchi à cette importance du travail dans la vie des gens? C'est-à-dire, est-ce que on a pour objectif juste de régler un problème qui est de se dire comment et quand part-on en retraite? Mais est-ce que vous faites le lien, justement, avec ce qui est au cœur de notre discussion aujourd'hui, c'est-à-dire l'attachement au travail, la volonté de faire du travail bien fait, la question de travailler en collectif et pas d'être émietté sur le marché des travails, etc., etc.
Alors ça, c'est un énorme sujet. Donc, il y a beaucoup de façons de l'appréhender, effectivement. Est-ce que ce projet porte une vision de la valeur travail? Je pense que le constat qu'on fait quand même, le point de départ, c'est que l'attachement au travail est fort, mais il est plus remis en question par la génération Y, etc. Et qu'on voit aujourd'hui une forme de distance où on met carrément en condition, finalement, son adhésion au travail. Bon, effectivement, quelquefois, c'est simplement le travail ou le monde du travail n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas intégrable. Et donc, je préfère être auto-entrepreneur, par exemple, que d'aller voir des DRH parce qu'ils ne me recevront pas. Donc,
Génération Y, on les cale dans quelle tranche d'âge, par exemple? C'est entre quoi? Entre 25 et 35 ans?
Ça fait que monter. En réalité, ce dispositif-là fait que monter. C'est-à-dire que la distance des jeunes au travail ou leur niveau d'exigence vis-à-vis du travail ne fait que monter. Ou alors, la distance s'accroît. C'est-à-dire, soit effectivement, je sens que je suis intégrable et j'ai des exigences de sens qui sont très fortes, et je mets sous pression mon environnement, d'une manière directe ou indirecte, soit effectivement, je pense que ce monde n'est pas fait pour moi, on m'a pas donné toutes les clés, je me sens un petit peu victimisé, je suis un peu en retrait, et donc j'essaie de me débrouiller. Alors soit, effectivement, par les auto-entrepreneurs, les petits boulots, ou la précarité, ou l'assistante sociale, etc. Enfin, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu contre cette espèce d'histoire française dans laquelle il y a encore cette valorisation du travail. Moi, j'ai un souvenir qui m'a beaucoup frappé. un syndicaliste de chez Michelin, pour ne pas le citer, qui effectivement était l'entreprise la plus dure en termes industriels, avec les gens qui meurent parce qu'il y a du black carbone dans les poumons. Et ce syndicaliste qui disait, je ne supporte pas qu'on dise que mon boulot est un sale boulot dégoûtant, c'est mon boulot, c'est notre boulot, on est digne en faisant ce boulot. Donc, quel que soit le boulot et sa pénibilité...
C'est une question de la dignité, c'est important.
Voilà, c'est absolument fondamental. Donc nous, là-dessus, c'est vrai qu'on a quand même un objectif qui est de faire en sorte que la valeur travail soit valorisée, y compris par la retraite. Très concrètement, ça veut dire, par exemple, qu'aujourd'hui, un jeune qui travaille, qui est stagiaire, qui a un petit boulot, CDD, CDI, il ne sait jamais s'il aura, par exemple, le bon nombre d'heures de cotisation, etc. Et là, l'idée toute simple est de dire, eh ben mon gars, à chaque fois que tu gagnes 10 euros en salaire, eh ben tu as des points et ces points vont être vus. C'est-à-dire, essayer de donner confiance et essayer de dire, oui, se prendre en charge, s'impliquer dans le monde du travail, y compris au début par des sujets un petit peu difficiles, avec des CDI, des stages, etc. Nous, on essaye de faire en sorte que, d'abord, on ne prépare pas la catastrophe à long terme de ces auto-entrepreneurs qui n'auront aucune retraite, mais aussi, on veut te rendre visible à toi le fait que cette protection sociale, elle t'est accessible et elle se construit tous les jours.
Peut-être que le jeune apprécierait pas que vous le tutoyiez aujourd'hui. Peut-être
parce aussi. Que j'ai des enfants de cet âge-là, donc vous voilà. Savez...
Donc je vous le dis, parce que ça fait partie effectivement des questions, effectivement, du respect entre plus âgés et plus jeunes dans la société, et certains, effectivement, se prennent un petit peu ces questions-là en pleine face. Béatrice
oui,
Bougnol.
Arnaud Mias, peut-être sur cette question du rapport des jeunes au travail, est-ce que dans les enquêtes que vous avez menées ou simplement que vous connaissez, il y a des choses qui convergent avec ce que vient de dire Jacques Maire.
Oui, je souscris, on va dire partiellement, à cette lecture, au sens où, il faudrait pas entendre par là que il y a un choix d'une indépendance qui est très contrainte. Enfin, on ne choisit pas, ils font pas le choix d'aller vers le micro-entrepreneuriat. Je pense pas que ce soit ce que vous avez voulu dire, mais justement, c'est subi et ça pose aussi des questions autant à l'entrée. Dans la vie active qu'à la sortie aussi, c'est-à-dire que en allongeant la durée de vie active pour les 55-64 ans, qu'est-ce qu'on leur propose comme type d'emploi? C'est-à-dire c'est aussi on a vu progresser ces dernières années les CDD à ces âges-là, on a vu progresser aussi l'inactivité, c'est-à-dire le report des inactifs non retraités de plus de 60 ans qui du coup se reportent plutôt vers les minima sociaux, vers d'autres soutiens financiers de la collectivité. Quoi.
Valérie Labattu sur ces questions.
Oui, vous parliez, monsieur maire, de dignité au travail. Mais la dignité au travail, c'est aussi d'avoir de bonnes conditions de travail. C'est ne pas perdre sa vie au travail et à la gagner. C'est exactement ce que j'allais dire. Or, ce n'est pas nécessairement ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Aujourd'hui, le projet de retraite, sans vouloir, puisqu'on parle quand même du lien entre travail et retraite, postule que pour équilibrer les comptes sociaux, il faut allonger la durée de la vie active. La question que je pose est assez simple. Est-ce que cette équation est si évidente? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut vraiment continuer à travailler plus longtemps, alors que, on le sait, le taux d'inactivité des seniors au moment de la liquidation de leurs droits à pension est de plus de 50%, et que nombre de salariés, et c'est là où je veux en dire un mot de la question de la pénibilité et au sens large de l'usure professionnelle, ne peuvent plus travailler bien avant l'âge de la retraite. Une petite phrase d'Emmanuel Macron, prononcée le 3 octobre dernier à Rodez, a fait grand bruit, je le cite. Moi, je n'adore pas le mot pénibilité parce que ça donne le sentiment que le travail, c'est pénible. Alors, c'est un peu comme disait Tartuffe dans la pièce éponyme de Molière, cacher ce sein que je ne saurais voir. Mais c'est pas parce qu'on supprime un mot qu'on supprime la réalité qu'il recouvre. Les personnes qui sont concernées par des travaux pénibles ne s'y trompent pas. Quelques chiffres. Chaque année, 130 000 salariés sont licenciés pour inaptitude professionnelle. Parmi ces salariés, 62% le sont pour inaptitude. Excusez-moi. 130 000 sont licenciés pour inaptitude et parmi ces 130 000, 62% le sont pour inaptitude d'origine professionnelle, soit un accident du travail, soit une maladie professionnelle. Nous, les inspecteurs du travail, on sait ce que ça veut dire l'inaptitude dans une entreprise. La plupart du temps, ça signifie qu'on sort de l'entreprise avec très peu de chances de retrouver un emploi. C'est pour ainsi dire la double peine hein, pour ces salariés-là. Et je voudrais dire, avant de conclure sur ce point, quand même un mot important, hein, puisqu'on ne peut pas parler de du travail et de la retraite sans évoquer la situation des travailleurs qui n'arriveront jamais à l'âge de la retraite. Parce qu'ils sont morts avant, hein, morts de maladies professionnelles, morts d'accidents du travail. On a beaucoup parlé des égoutiers hein, de la ville de Paris dans les médias. Hein. J'ai retrouvé les statistiques, hein, les enquêtes épidémiologiques montrent que la mortalité avant 65 ans est deux fois plus importante chez les égoutiers de la ville de Paris que dans la population test. Hein. Voilà, donc je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'aujourd'hui, le travail tue, le travail ampute, le travail blesse.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
Notre question aujourd'hui dans le temps du débat, c'est une question autour de la réforme des retraites. La réforme donne-t-elle du sens au travail et donc le lien entre travail et retraite, en compagnie d'Arnaud Mias, qui est professeur de sociologie à l'Université Paris-Dauphine, spécialiste du travail, de Valérie Labattu, secrétaire nationale CGT du ministère du Travail, qui syndique principalement des inspecteurs du travail, et Jacques Maire, qui est député LREM de la 8e circonscription des Hauts-de-Seine, mais également un des 7 rapporteurs des projets de loi sur la retraite. Et nous sommes en compagnie de notre partenaire Lacroix, en la présence de Béatrice Bougnol.
Oui, Jacques Maire, peut-être que vous souhaitez répondre à ce que vient de dire Valérie Labattu, puisque vous soulignez tout à l'heure que vous étiez notamment en charge de la pénibilité dans le projet de loi actuel. Donc sur cette question peut-être de la pénibilité, et puis aussi peut-être sur la question de l'emploi des seniors, qui est particulièrement en lien avec le sujet.
Bien sûr. Sur la pénibilité... Il y a une espèce de petit paradoxe, en fait, que nous partageons avec les syndicats, qui est de dire, si on commence à donner l'impression que la réponse à la pénibilité, c'est une retraite anticipée, il y a un énorme risque de désinvestissement, en fait, de l'effort des entreprises pour supprimer la pénibilité à la base et pour rendre le travail moins pénible. Et voilà. Et donc, il faut à la fois...
C'est un pari, ça, quand même, qui est fait par... à la fois par les syndicats et par vous-même.
Oui, c'est-à-dire que on se dit tous ensemble, attention, il y a évidemment des conditions de départ anticipé quand la personne ne peut plus travailler, donc ça c'est l'incapacité que vous avez évoquée, soit effectivement quand elles ont eu des travaux extrêmement difficiles et que même sans maladie professionnelle, sans accident de travail, voilà, elles ont eu un travail quand même extrêmement usant pour le corps ou pour l'esprit, on le dit. Maintenant, effectivement, il faut pas être dans une situation dans laquelle les gens se disent « Bon, ben, l'un dans l'autre, finalement, moi comme patron ou moi comme salarié, ben, on subit cette situation, ou moi comme syndicaliste, finalement, il y a une compensation qui est suffisante et le problème est réglé. » Donc, on est bien d'accord là-dessus. C'est pour ça que le gouvernement a ouvert le chantier, qui complique les débats d'ailleurs, en disant « Il faut traiter trois sujets. Il faut traiter la prévention de la pénibilité. » Dans la négociation, c'est en cours actuellement, il faut traiter la reconversion. Et ça, c'est un sujet qui n'est absolument pas traité correctement aujourd'hui. C'est-à-dire, on peut aussi se dire qu'on met des moyens pour faire en sorte que la personne, à l'échelle de sa vie professionnelle, sait qu'à un moment, à 15 ans, à 20 ans de vie professionnelle, elle a le financement qui lui permet de passer à une vraie reconversion.
C'est ce que disait dans un entretien à La Croix le Premier ministre Édouard Philippe il y a peu de temps.
Pas facile. Parce qu'on est attaché à son métier, par exemple, et que c'est pas facile, effectivement, y compris mentalement, de changer, mais nécessaire, et c'est le cas dans notre pays. Et puis, il y a la compensation, c'est-à-dire le départ anticipé. Et bon, sur le départ anticipé, c'est vrai que c'est un départ anticipé, mais en même temps, Madame Labattu l'a dit, il y a le paradoxe qui est l'augmentation de la durée de vie. Et ce dont on se rend compte, évidemment, c'est que quand on est à un actif 1,4, puis bientôt un 3, puis un 2, puis 1,1 à l'échéance de la milieu du siècle pour un travailleur, un salarié, effectivement, il est impossible de faire se confronter les générations les unes par rapport aux autres, à savoir, moi, je pars plus vite, plus tôt que toi, et tu cotises plus pour moi, et donc j'oppose les jeunes et les vieux. Donc évidemment, il faut aussi gérer la question de l'allongement de la durée de la vie au travail.
On reviendra sur la question des seniors dans un instant. Arnaud Mias.
Oui, bien sûr, sur ce sujet-là, il faut aussi avoir en tête que On va dans cette direction de chercher à maintenir les salariés âgés en emploi depuis pas mal d'années. Il y a eu différentes lois, 2008, le compte pénibilité.
Ça veut dire qu'on a moins.
On a déjà.
On est dans une situation où il y a une dizaine d'années, on disait il y a beaucoup de gens qui partent à 55 et qui sont quasiment licenciés à 55. On ne veut plus les employer à partir de 55 ans. C'est de moins en moins vrai, c'est ça ?
On soulève la question de compenser la pénibilité d'essayer d'accompagner, de soutenir le maintien en emploi des salariés âgés, parce que ces salariés sont réputés
experts,
mais aussi parfois dotés de compétences qui sont obsolètes, plus suffisamment efficaces. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que depuis bientôt 20 ans, on discute d'accompagner ce mouvement, mais ça pose de sérieuses difficultés, et c'est ce qui est évoqué. C'est-à-dire que comment faire en sorte que les entreprises mettent en œuvre une gestion des âges au travail qui soit effectivement plus active. Il y a des choses qui ont été expérimentées dont les résultats sont médiocres. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau pour aller un peu plus loin ? Parce que on peut considérer quand même que, de ce point de vue-là, on est très en retard dans l'accompagnement des salariés âgés dans leur travail.
Alors, cette question des seniors qu'on a abordée tout à l'heure dans la question de Béatrice Bougnol, c'est une question vraiment importante, parce que vous parlez beaucoup, Jacques Maire, de votre côté des jeunes, en disant, voilà, ces jeunes, ils ont une autre attitude par rapport au travail que les générations précédentes, mais ces seniors, ils voudraient peut-être aller un peu plus loin, ou peut-être s'arrêter plus tôt. C'est une question complexe. Comment faites-vous pour justement jouer sur cette possibilité de rester plus longtemps au travail quand on le peut, alors que les entreprises voudraient vous mettre à la porte, par exemple? Qu'est-ce qu'on fait à partir de cela quand on est, disons, un député, quand on est une puissance publique qui réfléchit à cette question du rapport entre travail et retraite?
Bon, la question est clairement posée à l'occasion du débat sur la retraite, même si toutes les réponses ne seront pas dans le projet de loi retraite, évidemment, parce qu'elles sont beaucoup plus larges. Bon, il y a un point déjà qui est assez clair, c'est que le taux de chômage des plus de 60 ans est faible. Mais ceux qui sont au chômage, ils restent, n'arrivent pas à revenir dans le marché du travail. Donc effectivement, la question, c'est comment éviter de sortir à cette occasion du marché du travail ou de son employeur et d'y rester. Alors, il est faible.
Il est de quel niveau ?
6% à peu près. Donc il est beaucoup plus faible que la moyenne nationale. Et deuxièmement, les gens qui y sont, en général, ont tendance à y rester. Et on voit effectivement qu'il y a aussi, par exemple, un appétit assez fort pour aller, je parle pas des précaires et des gens qui subissent, je parle en général, pour aller assez loin, y compris dans le cumul emploi-retraite, par exemple. Et on a effectivement, nous, dans ces cas-là, ce qu'on a proposé, c'est de favoriser effectivement le maintien le plus possible des personnes au travail dans des conditions, je dirais, d'adaptation de la fin de carrière avec le développement qui est prévu dans la loi de la retraite progressive, par exemple, qui permet d'avoir des transitions qui sont plus douces.
Béatrice Bougnol.
Est-ce qu'il y a des exemples, Arnaud Mias, en Europe, qui pourraient nous inspirer justement sur les... Puisqu'on sent bien qu'il faut qu'on trouve des mesures d'accompagnement pour que cet emploi des seniors se maintienne dans de bonnes conditions. Est-ce que, par exemple, en Finlande, je crois, il y a des mesures qui ont été prises et qui pourraient aujourd'hui inspirer... Le pouvoir français.
Oui, effectivement, mais je pense qu'elles sont déjà connues, elles ont déjà été posées sur la table, c'est-à-dire favoriser, inciter davantage le recours à la formation. Jacques Maire parlait de reconversion, c'est aussi ça, c'est-à-dire passé 45 ans, on s'aperçoit que les salariés ont un peu moins envie de se former. Il faut dire aussi qu'on leur propose un peu moins de se former aussi, parce que finalement on estime que ça y est, ils ont fait leur temps, en tout cas ils sont suffisamment expérimentés, on va pas leur faire apprendre un métier nouveau à cet âge-là, etc. Donc la formation
Quand même le regard des entreprises sur leurs propres salariés que vous pointez là.
Et puis les salariés sur eux-mêmes aussi, d'une certaine manière, et puis la formation, et puis les conditions de travail, ça c'est clé. C'est au-delà de tous les travaux pénibles effectivement dont on peine encore à prendre en compte l'exposition à ces facteurs de pénibilité dans les entreprises. Au-delà de ces facteurs de pénibilité, c'est aussi les conditions d'un travail épanouissant dans lequel on se réalise, dans lequel on a un collectif dans lequel on peut s'intégrer. C'est tout cela qui fait aussi que ces salariés auront envie de se maintenir en emploi durablement et ne penseront pas à saisir la première occasion pour quitter leur emploi.
Valérie Labattu.
Oui, j'aimerais revenir sur deux choses. D'abord sur la question effectivement du compte de prévention de la pénibilité, hein, qui je crois ne s'appelle plus comme ça, hein, puisqu'il s'appelle, me semble-t-il, le compte professionnel de prévention. Toujours la même idée, hein, il faut gommer le terme pénibilité. Voilà, un mot sur ce compte. On nous dit d'un côté, oui, il faut prendre en compte la pénibilité pour permettre aux gens de partir plus tôt, ce qui, j'y reviendrai, n'est pas non plus un idéal hein, de société. Eh bien, ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, c'est que ce compte, ne joue déjà actuellement que très partiellement ce rôle. Hein. J'en veux pour preuve que l'étude d'impact de la loi de 2013 prévoyait que chaque année, 3,3 millions de salariés pourraient y avoir droit. Or, ce n'est pas le cas, puisque en 2016, il y a eu 870 000 salariés qui en ont bénéficié et 650 000 en 2017. Donc beaucoup, c'est très peu. Oui, c'est bien en deçà des ambitions, premièrement. Deuxièmement, ce compte de pénibilité qui avait donc été introduit en 2013 a connu un coup de rabot terrible en 2017, hein, puisque quatre critères de pénibilité ont tout simplement été supprimés. J'en cite deux, hein, et non des moindres. L'exposition aux agents chimiques dangereux et les manutentions manuelles. Une caissière hein, ou un caissier de supermarché manutentionne presque une tonne de marchandises par heure. Hein, c'est pas par jour, hein, c'est par heure. Donc bien sûr, ce sont des salariés qui sont, alors pour le coup, qui développent des maladies professionnelles de type troubles musculo-squelettiques, qui sont des maladies très invalidantes et qui parfois ne permettent même plus aux gens de reprendre un travail. Hein, donc je m'interroge sur cette dichotomie entre les intentions et les actes. Autre risque, toujours par rapport à la pénibilité, c'est qu'on ne voit se profiler à l'horizon des négociations conduites entreprise par entreprise. J'ai lu dans le journal La Croix, justement, il y a deux jours, hein, l'interview du président du MEDEF, qui nous disait qu'il était absolument contre toute approche globale de la pénibilité et qu'il souhaitait, en réalité, des négociations entreprise par entreprise, c'est-à-dire au niveau où le rapport de force sociale est le plus défavorable au détriment des garanties collectives qui s'appliqueraient à tous les salariés.
Jacques Maire, sur cette question.
Oui,
alors entreprise par entreprise, par branche, enfin.
C'est vrai que le compte de pénibilité, le C2P, aujourd'hui, il ne traite qu'une partie des risques. Et les risques que vous avez évoqués à juste titre, hein, comme les troubles musculo-squelettiques, les ports de charge, etc., ils sont traités par le biais de l'incapacité dans le projet de loi. C'est-à-dire si effectivement vous avez, à cause de cela, quelque chose qui relève d'une maladie professionnelle ou d'un accident de travail, là vous passez à 10% et là vous partez en retraite. C'est pas très satisfaisant de mon point de vue. Et donc,
vous voulez dire que le débat c'est-à-dire autour de cette question à l'Assemblée ou au Sénat, au Parlement, pourrait changer les choses?
D'abord, le débat, il a lieu depuis quand même de 18 mois, 2 ans.
Et on voit bien que ça s'est accéléré maintenant.
Il a pas mal changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en ce moment même, se discute, alors pas chez nous, mais à Grenelle, le fait de savoir si oui ou non on peut prendre en charge de façon différente ces quatre risques. Et effectivement, de ce point de vue, ce qui est probablement en discussion aujourd'hui, c'est des accords de branche qui permettent
de... Et pas des accords entreprise par entreprise, comme le souhaite...
Il y a deux choses différentes. C'est l'accord de branche, et là, je ne sais pas encore ce que sera le résultat, mais la philosophie est la suivante. L'accord de branche déterminera les métiers sensibles, facteurs de pénibilité, sous forme de répertoire professionnel. Et c'est l'entreprise qui dira effectivement, parmi ces métiers, je vais dans tel secteur, dans telle branche, effectivement, les personnes concernées sont celles-ci ou celles-là. Après, quelles conséquences on en tirera? En termes de prévention, ça c'est sûr, c'est très clair. En termes de reconversion, ça il y aura des conséquences. Et puis en termes de retraite, ce sera effectivement la discussion au Parlement.
Une des questions qu'on pouvait se poser et qu'on s'est posée avec Béatrice Bougnol lors de cette discussion préparatoire à notre débat d'aujourd'hui, Arnomia, c'est de se demander si l'État aujourd'hui... n'est plus le maître du jeu. Vous avez travaillé sur les nouveaux modes de travail, vous avez travaillé sur l'éclatement, sur l'arrivée du travail en miettes, en particulier sous le coup des GAFA, de tous ceux qui privatisent l'espace public, qui voudraient d'une manière ou d'une autre changer les modes de travail avec la question de l'auto-entreprise et en profiter. Est-ce que d'une certaine façon, vous pensez que l'État aujourd'hui a toutes les cartes en main pour pouvoir résister à une pression qui vient de partout et en particulier de l'étranger dans beaucoup de cas, de grosses entreprises qui changent les règles de jeu ou qui, du moins, voudraient changer les règles du jeu et ne plus appliquer les règles telles qu'elles le sont dans le Code du travail en France. Est-ce que vous avez cette impression-là?
Je vais répondre peut-être en deux temps à votre question. Je pense d'abord, vous soulevez là des problématiques qui sont effectivement des problématiques que je perçois moi comme des problématiques d'agression du droit du travail direct par des entreprises qui cherchent à échapper à tout prix au cadre,
pas simplement à la fiscalité, au cadre
légal,
mais aussi, ouais.
Mais voilà, on le voit sur tous les faux indépendants, auto-entrepreneurs qui livrent à vélo, qui conduisent des personnes en voiture, etc., etc., qui font des micro-tâches sur leur ordinateur. Bon, on voit là effectivement une dégradation. Après, il faut aussi prendre la mesure de ce phénomène qui reste quand même encore, heureusement, relativement marginal. La deuxième chose que je voudrais dire quand même sur la question du rôle de l'État dans tout ça, effectivement, l'État ne peut pas tout faire. Si je reviens sur notre question d'aujourd'hui...
Il y a un Premier ministre qui avait dit ça il y a quelques temps.
Non, ouais, je sais.
Ça ne l'a pas porté chance.
Je ne suis pas dans la même position que lui. Je peux me permettre. Non, ce que je veux dire par là, c'est que sur cette question d'accompagner cet allongement de la durée de vie active, l'État, les partenaires sociaux à l'échelle nationales peuvent jouer sur des incitations financières, des bonus, des malus à essayer de tenir le plus longtemps possible au travail. Mais derrière, il y a aussi une responsabilité des entreprises vis-à-vis des conditions de travail qu'elles proposent, de l'organisation du travail, de la qualité du travail qu'elles proposent à leurs salariés tout au long de leur vie.
Valérie Labattu, sur cette question ?
Oui, encore faut-il que l'État n'affaiblisse pas lui-même les garanties collectives qui existent et qui sont offertes aux travailleurs. Ici, j'aimerais revenir rapidement sur... la tendance ces dernières années est à l'affaiblissement des garanties collectives et des droits des travailleurs. J'en veux pour preuve les ordonnances Macron, qui ont inversé la hiérarchie des normes et qui ont donc fragilisé ce qu'on appelle l'ordre public social en remettant en cause ce qu'on appelle le principe de faveur. Ça veut dire qu'on peut aujourd'hui déroger en moins favorable à une norme supérieure. Typiquement, un accord d'entreprise peut dans certains domaines déroger un accord de branche. Autre point extrêmement important et puisque vous parliez, monsieur maire, de la prévention des risques professionnels, c'est la suppression des CHSCT. L'acteur de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise, c'était le CHSCT. Il avait des pouvoirs extrêmement importants. C'était
les comités d'hygiène et de sécurité.
D'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, qui était l'instance chargée de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. Et il a été purement et bonnement supprimé par les ordonnances Macron de septembre 2017, ce qui a des conséquences ravageuses pour les salariés, puisqu'on parle des risques professionnels, puisque vous parliez de la prévention, voilà une instance qui fonctionnait bien et qu'on a jugé opportun de supprimer.
Jacques Maire, sur ces questions justement d'un État qui serait, non pas attaqué de toutes parts, mais qui d'une certaine façon aurait des puissances, en particulier financières, et beaucoup de moyens qui viennent d'un peu partout, ça peut venir d'Asie, ça peut venir d'outre-Atlantique, mais qui d'une certaine façon voudrait peut-être faire éclater ce cadre de travail, ce cadre dont on parle depuis le début de notre discussion. Vous n'avez pas de crainte, vous, en tant que député ?
Je pense qu'il faut regarder quand même à ce que les moyens de l'action publique soient adaptés aux conditions, à ce qu'est l'économie d'aujourd'hui. C'est ça. Et donc, on a une vraie difficulté aujourd'hui, effectivement, c'est de se dire comment est-ce qu'on passe d'un système organisé, professionnel, où on passe toute sa vie à un système qui est complètement éclaté. Et là, ça demande des révolutions, ça demande une grande flexibilité, une grande agilité. Et c'est vrai que, par exemple, le système de retraite universelle, il a vraiment vocation à ce que personne ne passe à travers les mailles du filet social, par exemple. Donc, ça remet en cause beaucoup de choses, évidemment, et c'est à nous de trouver des solutions pour demain.
Merci à tous les trois d'être venus débattre de cette question du rapport entre travail et retraite. Merci à vous, Béatrice Bougnol, d'avoir inspiré cette émission du jour, donc en tant que partenaire de notre journal La Croix. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André. Et puis évidemment, Théo Gomard à la technique aujourd'hui et Émilie Vallat à la réalisation.